Forma, résidence d'artistes, est un lieu de création et de recherche artistique, ouvert aux disciplines des écritures et arts visuels, implanté au cœur de Beaucouzé. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste plasticien Régis Perret, qui termine ses 2 mois de résidence à Forma. Régis Perret est dans le faire. Il nettoie, il balaye, il déplace, il ponce, il accumule. Tous ces gestes répétitifs, tel un balai du temps, de la mémoire et du patrimoine, ouvre sur un travail artistique très exigeant. Révéler les savoir-faire artisanaux, rendre visible l'invisible, dialoguer avec les traces du temps, poser les mots propres, traduisent son approche singulière et son œuvre foisonnante, protéiforme et résolument poétique. Régis vit à Nantes. Il est venu en résidence à Forma du 1er avril au 31 mai. L'occasion pour lui de déplacer sa pratique et développer son projet artistique autour des papiers peints intitulés « Oh, le sale gosse ». Bonjour Régis.
Bonjour Anne.
Revenons tout d'abord aux origines. Tu es dans la cuisine familiale, un balai à la main, prenant la pose et fixant l'objectif. Nous sommes en 1977. 20 ans plus tard, tu reprends la même pose, au même endroit, dans cette même cuisine familiale. Et tu termines alors tes études à l'École des Beaux-Arts de Nantes. Ces deux Polaroïdes, pris à 20 ans d'écart, sont-ils pour toi un point de départ dans ton travail ?
Alors c'est d'abord un point final à mes études, puisque je voulais signifier que certes je venais de faire 5 années dans cette école, mais qu'en même temps les préoccupations de la maison, du nettoyage, du balayage étaient là depuis l'enfance. Et en faisant ce Polaroid 20 ans après, c'était pour dire que finalement, dans le travail artistique, il pouvait y avoir aussi des éléments autobiographiques qui étaient là bien avant l'arrivée dans une école d'art ou dans une section art plastique, comme j'ai pu le faire au lycée de la Collinière à Nantes.
À la fin des années 90, tu entreprends l'écriture de ton petit dictionnaire autobiographique, Les mots propres, de Astiquet à Zen. Tu te réappropries les mots et en livres des définitions propres à ton univers et à ton vécu. Pour reprendre ta définition du mot « dictionnaire », au présent et avant trop de souvenirs, j'écris et je range mes mots. Comment t'es venue cette écriture vivante qui aujourd'hui atteint, il me semble, près de 600 définitions ?
Oui, dans une prochaine et éventuelle édition, il y aurait 600 définitions. En fait, c'est comme les Polaroïdes, ça m'est venu pendant la 5e année. J'ai produit peu de choses en fait pendant ma 5e année pour préparer le diplôme, mais j'ai beaucoup fait le ménage et j'ai regardé tous mes carnets. Et puis parfois, j'ai vu des phrases que j'avais notées et qui me semblaient presque comme des définitions. J'avais juste un mot à mettre devant et se constituaient devant moi quelques définitions liées au balayage, au nettoyage, donc un peu en relation avec mes études aux Beaux-Arts où j'avais balayé, serpillé, raclé mes ateliers. Et puis, toutes ces définitions portaient autour de la propreté et en même temps donnaient, c'était ma définition à moi. Et j'ai commencé à réunir ces définitions dans un petit livret. Il y avait 7-8 définitions. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais continuer ce projet autobiographique toute ma vie, non pas attendre dans la perspective d'une autobiographie après 40, 50, 60 ans de pratique, de vie, mais le faire au fur et à mesure. Et comme ça, on peut voir un parcours qui se fait et aussi une vie qui évolue. Je prends souvent l'exemple, par exemple, des défunts. Très longtemps, j'ai voulu être incinéré. Donc, il y a quelques définitions autour de ce thème-là où on comprend que j'aimerais ne plus être quoi que ce soit, un corps. Et finalement, depuis quelques années, je veux rejoindre, comme je l'appelle, l'humanité des enterrés. Et donc, on trouve des choses parfois contradictoires comme ou très différentes, comme nos vies le sont. Et en écrivant sur autant de décennies et en ajoutant au fur et à mesure, sans modifier les définitions précédentes, eh bien on constate, on voit une vie d'homme et d'artiste qui se met en route et qui se suit quotidiennement comme ça au fur et à mesure des années, des projets, des résidences.
Est-ce qu'il rend très très vivant du coup ?
Oui, c'est un peu le but. Et puis surtout, c'est dans l'immédiateté. Alors que quand on est, si on écrit une topographie à la fin de sa vie, par exemple, ou après quelques décennies, les souvenirs vont être un peu lissés, oui. Ou on va vouloir faire une unité.
Ou une analyse.
Ouais. Moi, la seule unité, c'est qu'ils sont rassemblés dans ce corps du papier, mais que je ne touche pas aux différentes décennies et aux définitions.
Donc à chaque fois, tu édites une petite feuille A4, c'est ça, quand tu fais, tu les mets à jour ou tu fais un recueil.
Alors en 2010, j'avais fait un recueil qui avait été cofinancé par des galeries, des centres d'art, des musées, la région de l'Épée de la Loire, différents lieux qui me suivaient déjà. Et puis là, j'ai pris l'habitude régulièrement pendant des résidences de proposer cette forme d'une feuille A4 pliée en deux. Donc les mots propres en couverture et sur la deuxième, troisième et quatrième page, entre 56 et 60 définitions qui sont installées. Donc là, pour Bocuse, pour cette résidence de 2 mois, il y a à peu près une dizaine de nouveaux mots autour notamment de la maison, du détapissage et du papier peint.
Il y a une citation, enfin une définition que tu veux nous livrer là comme ça
Ça pourrait être par exemple papier. Aimer scruter la surface du papier peint, puis dessiner, peindre, frotter, laver, redessiner le papier comme un territoire à explorer, à œuvrer. C'est le papier peindre.
Donc là, on va y revenir tout à l'heure sur tout ce travail que tu as fait pendant ces 2 mois de résidence. Mais ce que je remarque aussi, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années maintenant, ton travail, il s'illustre aussi avec des images et des vidéos très fortes et très puissantes qui vraiment engagent ton travail en tant qu'homme et en tant qu'être vraiment dans ton art. Et au-delà parfois d'être même périlleuse, parce que tu t'aventures des fois dans différentes actions, tes actions sont à la croisée à la fois de l'intime qui se retrouve bien souvent avec la grande histoire. Je pense notamment au balayage de la route occidentale de Gizeh en Égypte, avec en arrière-plan les fantastiques quand même pyramides.
Oui.
Ça, c'était en 99. Donc, c'était vraiment après ta sortie de l'École des Beaux-Arts. Donc déjà, tu ancrais quelque chose d'assez fort dans ton travail. Et puis, il y a aussi l'image, plutôt une vidéo d'ailleurs, à la bataille de neige contre un tag nazi à Lublin, en Pologne. Là, on est en 2004. Et puis, nous sommes à Angers. Donc, il y a bien sûr les petites fleurs de l'Apocalypse en 2018 qui t'ont été inspirées par la tapisserie de l'Apocalypse et qui jalonnent aujourd'hui discrètement l'espace public, les musées, les centres d'art, les lieux de mémoire et même chez des particuliers, en France et à l'étranger. Et puis plus précisément, le mois dernier, une photo de toi que je garde en tête, grimpée sur ton escabeau, décollant la tapisserie d'un plafond dans une pièce au mur tapissé d'un motif vert, donnant une impression de kaléidoscope. Mmh. Elle était vraiment assez gigantesque, on a envie de plonger dans cette photo. Donc tous ces petits gestes, qui sont des gestes du quotidien, finalement, balayer, nettoyer, lisser, traduisent-ils pour toi un besoin de tisser des ponts entre les traces du passé et notre présent, notre vie contemporaine?
Oui, puisque je suis très attaché à l'histoire. Tu parlais des tags nazis en Pologne quand je vivais à Lublin ou l'Égypte. Évidemment, c'est mon premier grand voyage où je vais au départ pour balayer innocemment une pyramide, et je m'aperçois que les premiers blocs sont plus hauts que moi et mes 1m60. Et puis je me pose la question, mais tiens, est-ce qu'un Égyptien viendrait grimper sur une cathédrale? Évidemment, non. Et je me suis toujours posé ces questions, c'est-à-dire d'arriver dans un lieu et s'apercevoir qu'on a une idée et que parfois le lieu vous dit que l'idée, il va falloir la modifier. C'est-à-dire d'être en dialogue. Alors moi, toute ma vie, j'ai plutôt dialogué avec les lieux qu'avec les gens. Je suis amoureux des bâtiments. Alors, évidemment, il y a des gens qui vivent dedans ou qui les ont abandonnés. Donc, il y a des traces. Et ces traces-là me plaisent beaucoup. Et puis aussi, c'est tout le tu parlais de petits gestes. C'est réellement ça. C'est tout ce qui est de l'ordre du patrimoine. Les assiettes, par exemple, les torchons. Évidemment, l'objet emblématique qu'est le balai et tous les outils de nettoyage. Et tout ça, décennie après décennie, ça constitue une sorte de vocabulaire qui fait qu'on se construit en tant qu'artiste. Et tu as utilisé le mot action aussi, qui est un mot important, puisque moi, je ne fais pas de la performance. Je suis comme quelqu'un qui va au travail ou un sportif qui s'entraîne. Je vais répéter des gestes. Voilà, moi, je viens des milieux paysans et ouvriers. Et j'ai fait beaucoup de sport adolescent et j'en ai retenu justement cette idée du rythme et de la nécessité de la répétition, de l'endurance pour arriver à produire soit des objets ou en tout cas du sens.
Donc là, depuis quelques années maintenant, tu amorces une nouvelle étape aussi dans ta pratique. Après tout ce travail où tu as passé beaucoup de temps à voyager, tu développes une pratique à la fois plus intime, plus posée dans ton atelier du couvent à Nantes, que tu vas bientôt retrouver.
Oui.
Comment est né ce nouveau regard justement sur ta pratique? Et est-ce que c'est vraiment la naissance de ton projet Ole Salgos, justement?
Alors, très tôt, j'ai su que je ne ferais pas toute ma vie des actions répétitives, parce que parfois, je sentais que mon corps pouvait fatiguer. Et puis, il n'était pas question non plus d'être dans l'imitation du travail à la ferme de mes grands-parents ou du travail ouvrier de mes parents, que j'ai vu aussi abîmé par le travail, comme toutes celles et ceux qui ont des parents qui voyaient que de temps en temps, quand ils revenaient de l'usine ou en tout cas d'endroits où les travaux sont, le travail est dur, j'ai su très tôt que ça n'aurait qu'un temps, en fait. Et puis, ensuite, après ces temps des actions, j'ai fait le temps plutôt des installations dans les lieux. Et puis là, avec mon appartement qui, pendant un peu le Covid, a commencé à se fissurer, j'ai été dans une sorte d'urgence, parce que je suis très attaché à mon lieu de vie. Ça fait 20 ans que je suis dans cette partie de le quartier de la cathédrale de Nantes.
C'est un merveilleux endroit pour le connaître.
Je suis très attaché à cet endroit, puisque c'est mon lieu de vie, mais c'est aussi, il y a trois grandes pièces à côté qui sont, il y a une porte dans la cuisine, mon atelier. Et j'ai dû déménager beaucoup de choses pour que des travaux puissent commencer, pour faire face aux fissures qui apparaissaient. Et je me suis retrouvé à déménager beaucoup de choses, à jeter beaucoup d'œuvres. Je savais qu'elles avaient été présentées dans un contexte et je n'avais pas forcément envie de les présenter. Et je me suis retrouvé donc avec ma collection de papier peint que j'ai depuis que j'ai commencé en 2010. Donc plutôt des rouleaux, des carnets. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette collection à part qu'elle dort là? Et puis j'ai commencé à la regarder. Et puis en fait, j'ai commencé à crayonner de la main gauche, qui n'est pas ma main forte. Et là, je me suis senti, j'ai eu tout de suite le titre de la série « Ole Salgos » m'est apparu, puisque comme beaucoup de gens, j'ai grandi dans des familles dans les années 70 où on tapissait, voilà, les cuisines, les couloirs. Et je repensais à cette figure de l'enfant qui, avec des feutres, des crayons, vient, alors que les parents ont le dos tourné, dessiné sur les murs. Je me suis dit, mais cette collection qui est, où il y a des éléments qui sont quand même très beaux, des carnets des années 50, 60, que je vais acheter en Belgique à Gand, dans un magasin mythique que les décorateurs de cinéma et théâtre connaissent bien. Je me suis mis à la modifier, à la transformer, et donc à réellement être un sale gosse. Mais non pas pour faire des gribouillis sur ces papiers peints, mais pour faire des tracés, de l'ordre de la promenade plutôt. Et là, ça a été un choc pour moi. Je me suis dit que c'était quelque chose qui synthétisait presque 25 ans de carrière. Et que là, dans ces feuilles de papier peint, je trouvais des paysages dans lesquels je pouvais me déplacer avec de l'aquarelle, des crayons feutres, des crayons de couleur. Et que finalement, tout le monde entier était réduit dans ces feuilles, comme si, je dis, toutes les maisons du monde étaient dans cette collection, en quelque sorte.
Et c'est intéressant aussi le fait que tu utilises ta main gauche. Parce que ça veut dire que tu es droitier, tu t'autorise justement le risque, l'accident du trait qui ne va pas forcément être régulier et qui va être plutôt de l'ordre de l'instinct, de l'intuition. Tu te laisses guider vraiment par le trait et le papier et le motif. C'est un vrai dialogue.
Oui, c'est un vrai dialogue. Mais comme lorsqu'on fait de la randonnée, on va être sur un terrain lisse, goudronné ou un chemin bien taillé, tout va bien. Mais dès qu'on va monter ou descendre dans des chemins rocailleux, que ce soit notre pied droit ou notre pied gauche, peut se poser sur un caillou, on va glisser. Là, je m'accorde ce temps-là, en fait. Moi, je ne suis foncièrement pas un peintre ni un dessinateur. Et pourtant, j'admire la peinture, notamment chez mes camarades artistes ou dans les musées. Je sais que je ne suis pas peintre, mais ça ne m'interdit pas de dessiner, de jouer, d'être un sale gosse sur cette collection et justement d'aller à l'aventure. Et là, je suis comme un enfant ou presque comme un étudiant, je dirais, très excité par cette aventure parce que tout semble possible sur ces papiers peints. Alors, qui étaient des papier de collection, rouleaux et carnets, et qui, depuis l'été 2024, va aussi vers les papiers peints que je détapisse dans les maisons.
Oui, finalement, c'est une nouvelle aventure.
C'est oui, une vraie...
Tu te remets à voyager un petit peu.
Oui, voilà. Finalement, je voulais rester dans mon atelier sur cette collection, mais pour avoir plus de papier peint, agrandir ma collection en mètres linéaires et donc récupérer les pots intérieurs des maisons, je me retrouve paradoxalement de nouveau à refaire des kilomètres pour là où on m'invite à détapisser, où tu vas pouvoir en parler quand vous m'avez invité avec Timothée à Beaucouzé, où ça correspondait à un moment où dans la ville de la commune de Beaucouzé, il y avait des maisons qui allaient être démolies, dans lesquelles il y avait des trésors de papier peint fleuri magnifiques.
C'est vrai qu'on a tout de suite pensé à toi. Justement, la passerelle est toute trouvée, puisque là, ces deux derniers mois passés en résidence à Forma ont quand même été très intenses. Ton intervention, justement, dans certaines maisons de Beaucouzé destinées à disparaître, était vraiment une belle opportunité à saisir pour toi et pour le territoire de Beaucouzé de valoriser toutes ces maisons qui n'auront plus... de place dans le bourg, mais qui auront justement été extraites grâce à ton travail de papier peint. Il y a ton exposition justement aussi à la Grange Limière, qui est la salle d'exposition de Beaucouzé, pour représenter une sélection de lait de papier peint et une partie de ta série Au Le Salgosse, vraiment ancrée sur le territoire de Beaucouzé, vraiment de tout ce que tu avais pu collecter. Il y a la rencontre à Witt aussi autour du lancement d'une nouvelle édition de ton petit dictionnaire Les mots propres, lié justement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, à la résidence à Forma. Et puis, il y a eu la formidable aussi invitation du Château d'Angers à participer à la Nuit européenne des musées, où là, tu avais carte blanche dans la galerie des tapisseries de l'Apocalypse. Donc, effectivement, on ne s'est pas ennuyé, j'ai l'impression, en tout cas, de mon côté. Mais c'est une vaste question. Mais que retiens-tu justement de ces deux mois? Parce que c'est vrai que tu avais envie de revenir à une pratique d'atelier, de te poser, tout ça. Et est-ce que ces deux mois, justement, en résidence, à aussi faire un peu de médiation, à être aussi en contact avec les habitants, l'équipe aussi de Beaucouzé, l'équipe technique. Voilà, comment toi, tu as pu vivre ce moment, ce temps? C'est une question très, très large. Tu la captes là où tu as envie de la capter.
Oui.
Mais voilà, j'avais envie d'avoir un peu ton retour sur ces deux mois.
C'était deux mois vraiment intéressants, puisque la résidence, elle commence même avant, au mois de mars, parce qu'une maison qui s'appelle Loisellerie va potentiellement être détruite quelques semaines après. Et donc, je viens déjà faire cette semaine qui me permet de détapisser Loisellerie, de commencer une autre maison où il y a six pièces assez grande, dont chacune il y a un papier peint différent. Donc déjà, quand j'arrive, j'ai déjà du stock de papier peint, des tapissés que je dépoussière et sur lequel je peux commencer à travailler. Donc en fait, oui, quand tu en parles comme ça, c'est vrai que ça fait très concentré, mais jour après jour, c'est quand même un temps où j'ai le temps de... Alors moi, je me lève plutôt tôt en général. J'ai le temps de regarder les papiers peints, j'ai le temps de cuisiner, parce que pour moi, c'est important d'être aussi heureux. Moi, je suis un artiste aussi, parce que foncièrement, je suis heureux de vivre et que chaque jour, j'essaie d'équilibrer des moments de joie, de travail, qui parfois sont les mêmes, mais où prendre le temps de faire les choses. Voilà, et prendre le temps de cuisiner, de faire sa popote, de faire mijoter. C'est aussi comme le temps de faire mijoter un peu les papiers peints. Parce que quand il faut détapisser, là, c'est 7 à 8 heures par jour avec la machine à vapeur. Donc, il fait chaud, c'est sur l'escabeau puisque les murs sont assez hauts.
Oui, ça peut être périlleux, hein, comme je disais tout à l'heure.
Oui, c'est très physique. Et puis, on est dans le rythme, donc on le prend, le corps, au bout de 2-3 jours, il prend ce rythme-là. Et après, dès que la machine, le bruit du compresseur s'arrête, on est dans le silence. Et là, on revient à la série des Salgosses, refaire des découpages, voir comment le travail sur la main, les couleurs, des fois... Pendant 3 semaines, je vais utiliser qu'un crayon de bois. Et au bout de 3 semaines, je vais me remettre au crayon de couleur. Je n'ai pas réellement de rythme. Ça dépend des morceaux de papier peint. C'est, C'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je m'adapte au paysage que j'ai devant moi. J'essaie de lire le paysage, je ne vais pas le forcer puisqu'il ne s'agit pas de faire du gribouillis, mais à chaque fois de regarder les couleurs, les motifs. Alors quand c'est des motifs floraux, avec la main gauche, ça peut prendre le tour d'arabesque, mais parfois ça peut être des motifs années 70, très géométriques ou même art déco. Là, le trait se fait plus droit, les actions sont plus, peut-être des fois plus rigides, on pourrait dire. Donc, c'est des temps, ce temps de la résidence permet ça aussi. Et c'est ça qui est vraiment bien à Bocuse, c'est que c'est vous, format et la commune, vous êtes une belle énergie justement pour permettre à des créateurs comme moi d'avoir ce temps-là. Et en même temps que lorsqu'on a besoin de quelque chose comme un compresseur, on le trouve assez facilement au fin fond d'un hangar de la municipalité et il redémarre alors qu'il n'avait pas démarré depuis des années. Et ça se remet en route et ça crée une dynamique. Voilà, on croise beaucoup de gens, des élus, on croise les habitants, les voisins, les voisines, les gens qui viennent. Et on est entre ce temps de tout seul dans sa petite maison et dans l'atelier et le temps du dialogue avec les gens.
Oui, un genre de vide et de plein que tu équilibres pendant ce temps-là.
Oui, qui s'équilibre à peu près, oui.
Ouais, voilà. Moi, j'ai adoré ton regard presque d'enfant à chaque fois que tu découvrais une nouvelle pièce avec de la tapisserie. Il y avait au mois de mars, ça, c'était vraiment un moment hyper excitant et très, très chouette à observer justement parce qu'effectivement, c'est Christophe, la personne de la ville de Bocuse qui t'a aidé au niveau de la technique. Il était vraiment là pour t'accompagner dès que tu avais besoin et ce qui a facilité aussi grandement ton intervention dans ces maisons puisqu'il n'y avait plus d'électricité, enfin des maisons qui ne sont plus habitées depuis
Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'eau et c'était la joie d'être dans ces maisons fermées depuis quelques décennies, d'être tout seul toute la journée, d'avoir son petit sandwich ou d'aller déjeuner au Mille, le bar, restaurant un peu plus haut dans le village. Mais surtout, oui, c'est des moments très heureux d'être dans ces pièces et de faire cette récolte patiemment, puisque là, il ne s'agit pas de détapisser à la spatule très vite, mais je veux récupérer un maximum de lait dans la longueur, donc il faut être concentré.
Oui, c'est très méthodique.
Il faut les déposer au sol pour qu'ils sèchent, les enrouler ensuite, les dépoussiérer. Enfin, c'est un temps très long, c'est un travail de longue haleine. Il faut être très appliqué, et ce qui permet justement après, dans le temps de l'atelier, d'avoir tous ces trésors. Moi, c'est des vrais trésors, parce que parfois même, il y a des doubles, voire triples épaisseurs de papier peint. Je peux quasiment choisir de peler le papier peint ou de l'éplucher, en quelque sorte, pour essayer de trouver les trésors. Des fois, il y a même des inscriptions sur le mur que j'ai pu retrouver, là, notamment dans une des dernières pièces que j'ai faites. Ça fait des moments de résidence qui sont très productifs et puis en même temps très, très heureux.
Et est-ce que tu as l'impression, en revenant finalement à Angers, enfin à Bocuse, mais d'avoir bouclé une boucle avec ton travail que tu avais amorcé avec les tapisseries de l'Apocalypse, avec le domaine national du château d'Angers. Est-ce que tout d'un coup, tu t'es retrouvé avec ton nouveau projet des salles gosses, des tapisseries, face à l'immensité des tapisseries qui ont traversé toutes ces époques, elles aussi, mais depuis longtemps. De l'Apocalypse. Et moi, j'ai trouvé symboliquement que c'était vraiment une belle image de te retrouver là, à ce moment-là, quasiment 8 ans.
2018.
Cinq ans, après. Et je trouvais que ça bouclait, peut-être. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça bouclait une boucle. Mais peut-être pas pour toi. Ça ouvre autre chose.
Oui, parce qu'en fait, en même temps, j'ai des petites fleurs de l'Apocalypse qui sont exposées en ce moment dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une expo collective, dans un lieu qui s'appelle, à côté de Lille, qui s'appelle « Vous êtes ici ». C'est revenir dans cet endroit où, à l'invitation d'Hervé Yanou, l'administrateur du château, qui m'avait donné carte blanche dans le château, et finalement, j'avais choisi de faire un papier peint avec l'atelier Dauphard à Tours, donc qui est un fabricant, quelqu'un qui a fait aussi les Beaux-Arts à Angers, et qui m'a aidé à redessiner des fleurs que j'avais en modèle à partir de la tapisserie de l'Apocalypse. On a élargi aux ouvrages que François-Xavier avait aussi sur les fleurs et puis les motifs qu'ils utilisent aussi dans leur atelier. Et donc là, de revoir parfois les petites fleurs que j'avais collées en bas des murs, c'était plutôt un retour. Mais en même temps, il y avait la présentation de ces papiers peints, puisque quand Hervé a accepté de parrainer la résidence Format, je lui disais que j'aurais été honoré de ce parrainage, puisque pour moi, Beaucouzé, c'était un peu le petit village en bas du château, et que le seigneur, dans son château, prend soin des populations qui sont autour, et d'avoir son regard bienveillant, puisque Hervé, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, et qu'il nous propose la Nuit européenne des musées, ça c'était vraiment formidable.
C'est un beau cadeau. Ouais.
C'est un beau cadeau, et du coup, les papiers peints de Beaucouzé arrivent dans la salle de la tapisserie, sont déposés devant, et pendant toute la nuit, donc comme tu l'expliquais, je déplaçais les laits de papier peint ou les morceaux devant dans la deuxième partie en angle droit de la salle de la tapisserie. Je retrouvais mon compagnon le petit lapin là, qui rentrait à un endroit et qui ressort quelques panneaux suivants. C'est aussi le plaisir d'être devant une œuvre magistrale qui nous dépasse en siècle, qui nous dépasse en taille, à l'échelle. C'est une échelle extrêmement importante. Et puis dans laquelle il y a toujours des choses à découvrir, des détails extraordinaires. Où il y a aussi un côté sale gosse, puisque les perspectives sont celles du Moyen-Âge et pas celles de la Renaissance.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a des choses très troublantes en termes de graphique, de dessin. Et ça m'a marqué pendant cette Nuit européenne des musées.
Eh bien moi, j'ai envie de terminer sur une citation de l'écrivain et ton ami Hugues Blineau, évoquant ton travail sur les papiers peints. Susciter les trajectoires entre les lieux et les images, produire des mises en boucle, revenir aux origines pour déployer de nouvelles écritures, de nouveaux gestes d'intensité. Bonne route à toi, Régis. À très bientôt.
Merci.
Pour découvrir en images le travail de Régis Perret, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Régis Perret, et sur son site internet, régisperrettoutattaché.eu. L'association Format est soutenue par la ville de Beaucouzé et WIT Café Culturel à Angers. Cette série d'entretiens des artistes accueillis à Format est produite par Radio G. Un grand merci à eux pour cette carte blanche.